Nous avons étudié dans une première conférence les temps d'angoisse et du désert. En ce temps-là, il y aura un temps d'angoisse comme il n'y en a jamais eu. L'angoisse et le désert, ce sont ces lieux dans lesquels les événements d'aujourd'hui nous entraînent, soit d'être de plus en plus prisonniers de l'Égypte et de tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire les biens matériels, la sécurité, la paresse, soit de conquérir la terre qu'on avait appelée la terre de Gozen, où rien ne peut nous atteindre. En fait, c'est d'accumuler des grâces et de se loger dans le refuge du cœur du Christ. Et on n'est pas perturbé par les événements. Un peu comme des spectateurs du livre de l'Apocalypse qui vont vivre de l'intérieur ce qui se passe dans les lettres aux sept églises, mais qui vont voir les choses extérieures avec une paix telle que ça ne va pas les atteindre. Dans la seconde, on avait considéré comment on pouvait réagir face à ce qu'on avait appelé une montagne qui fume, c'est-à-dire un événement angoissant. Et on avait vu que quand on avait le cœur pur, les mains innocentes, l'âme qui se garde de l'idolâtrie et la bouche qui évite de dire des faux serments, on était en mesure de savoir quand se mettre en route pour ne pas prendre de risques. En fait, dès qu'on était angoissé, dès que l'angoisse s'arrêtait, on savait que c'était le moment de réagir. Dans la troisième conférence, on a étudié les rouages de l'escalade de la violence, que nous voyons de plus en plus, le fait qu'on se dresse les uns contre les autres, royaume contre royaume, nation contre nation, la spirale de la violence. On avait vu que ce qui accélérait cette violence aujourd'hui, c'était le péché, les rumeurs de guerre, qui sont le fait de présenter une vérité en mentant sur les circonstances, d'exagérer des faits, au niveau des médias par exemple, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Aujourd'hui, on va aborder un autre signe que le Christ nous évoque, faisant écho à la théologie de l'Ancien Testament, traite du soleil et de la lune. Il est dit dans les discours sur la fin des temps du Christ, à la fin des évangiles, « Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Notre Seigneur Jésus évoque le fait que les astres, dans les temps où le Christ s'apprête à revenir, les astres n'arrivent plus progressivement à jouer leur rôle habituel. On va donc étudier même ce que représentent ces deux astres que nous connaissons plutôt bien, que nous côtoyons tous les jours, le soleil et la lune, d'un point de vue biblique, et on verra qu'un des points les plus importants des signes des temps, d'après moi, et qu'ils représentent les spécificités de l'homme et de la femme et qui vont en notre temps s'estomper. On va avoir du mal à faire la différence entre un homme et une femme aujourd'hui. On verra en fait que l'homme et la femme peuvent tous les deux être ou le soleil ou la lune, mais que l'homme a une capacité peut-être plus grande à représenter le soleil. Il a en lui quelque chose qui est plus proche du soleil, on va dire, et la lune pour la femme. Et c'est vrai que depuis Galilée, on se concentre beaucoup sur le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Alors c'est vrai que c'est pas Galilée qui a inventé, il a plutôt remis au jour quelque chose qui était connu dans l'Antiquité. Mais il semble que la perspective la plus intéressante, ce soit plutôt la perspective biblique. Le Soleil et la Lune sont d'abord deux créatures qui ont été créées pour l'humanité. Et donc ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le fait qu'on les voit tous les deux tourner autour de nous. En fait, quand on regarde le ciel, on voit ces astres qui dansent. Ils nous éclairent, ils nous réchauffent, et ils changent d'aspect selon le moment de la journée ou du mois. Et je prendrai souvent les mêmes deux exemples qui me semblent représentatifs concernant le soleil et la lune. Soit en disant que l'homme est le soleil et la femme est la lune, en parlant d'un couple marié, bien sûr, enfin un couple, tout simplement, l'homme est le soleil et la femme est la lune. Soit en parlant d'un groupe, je vais imaginer en fait un homme qui est à son travail et qui va être sous l'autorité, sous la responsabilité de son responsable au travail, qui va être la lune et son responsable hiérarchique va être le soleil. Voilà les deux exemples que je donne pour montrer des situations toujours avec le soleil et la lune. Et la lune, en fait, enfin, c'est pas n'importe quel membre du groupe, on verra, c'est celui dans le groupe qui adhère à la responsabilité du responsable, qui adhère à son autorité, qui va faire corps en fait avec le chef, qui ne va pas être dans une attitude de dissidence. Je vais m'appuyer sur, premièrement, la parole de Dieu éclairée par la tradition de l'Église, deuxièmement, la tradition juive, troisièmement, les observations scientifiques que l'on peut faire sur le Soleil et la Lune, des observations de base, en fait, et quatrièmement, sur des témoignages de personnes qui expliquent la beauté de la différence homme-femme. Et je vais me concentrer plutôt parmi ces gens qui témoignent sur l'homme et la femme, ou alors les responsables et les gens dans son groupe. Je vais m'appuyer sur des personnes qui dégagent quelque chose en lien avec le bonheur, quoi, que ça rend profondément heureux, des gens qui portent beaucoup de fruits dans leur vie, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages, et une des difficultés, je pense, pour aujourd'hui, c'est qu'on va souvent prendre des témoignages de personnes sans vérifier est-ce que c'est une personne qui est profondément heureuse de livrer ce témoignage, ou est-ce que c'est une idée qu'elle assène avec colère. Et dans ce cas-là, on ne peut pas forcément dire que les deux témoignages aient la même valeur, en fait. Les parties que nous allons aborder aujourd'hui, donc, c'est premièrement qui sont le Soleil et la Lune. Deuxièmement, on va faire un zoom sur le Soleil. Troisièmement, sur la Lune. Et quatrièmement, le Soleil et la Lune qui s'obscurcissent, c'est-à-dire le signe des temps qui nous intéresse pour aujourd'hui. Dernière partie sur le fait que il est dit qu'il y a un temps aussi où le soleil et la lune doivent briller beaucoup plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a comme un transfert entre ceux qui brillent moins et ceux qui vont briller plus. On va voir comment. Donc, premièrement, qui sont le soleil et la lune? Deuxièmement, le soleil. Troisièmement, la lune. Quatrièmement, ces deux astres qui s'obscurcissent. Et cinquièmement, le fait qu'il y a un temps où ils soient appelés à briller plus que d'habitude. Toujours dans le soleil et la lune qui s'obscurcissent, en fait, pour vous tenir en haleine, je vais m'appuyer sur trois interprétations. Une interprétation qui est l'homme et la femme qui perdent ce qui fait leur spécificité et leur force. Ou alors le chef d'un groupe et les membres du groupe qui sont censés refléter sa lumière. Deuxièmement, le fait de ne plus utiliser la cyclicité du temps comme un allié. Le fait qu'il y ait des journées, des semaines, des mois, des années, il y a des caractéristiques à la fois physique, physiologique et spirituel au temps qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Ça, c'est, je pense, le soleil et la lune qui s'obscurcissent. Et aussi, le fait que il va bien y avoir un obscurcissement du soleil et de la lune, il va se passer quelque chose, la lune qui deviendra couleur de sang à un moment donné. Et je le commenterai. Dans Jérémie, il est dit, par exemple, « Ainsi parle le Seigneur qui établit le soleil comme lumière du jour, la lune et les étoiles dans leur ordre comme lumière de la nuit, qui remue la mer, et c'est le tumulte des vagues, le Seigneur de l'univers, c'est son nom. » Et dans le psaume 136, « Il est l'auteur des grands luminets, car sa fidélité est pour toujours. Le soleil qui règle les jours, car sa fidélité est pour toujours. La lune et les étoiles qui règlent les nuits, car sa fidélité est pour toujours. » Grand A, qui sont le soleil et la lune? Petit 1, dans le grand 1, les deux astres créent ensemble. Alors, la tradition juive nous dit que les éléments sont créés deux par deux. C'est fait exprès. Tous les éléments sont nommés par deux pour éviter qu'ils se glorifient d'être seuls. Et c'est le cas pour le soleil et la lune. Ils forment une paire qu'on trouve très souvent ensemble dans la Bible. On les nomme ensemble au moment de leur création. Donc on les met sur un même plan. Quand ils sont nommés, il y a des petites spécificités qui sont soulignées, comme on l'a vu. Et parfois non, c'est simplement pour les nommer. Et les textes qui montrent à quoi nous sommes destinés, par exemple Saint Paul, qui nous dit que par le baptême, c'est comme si on avait à la fois les pieds sur la terre, puisqu'on doit respecter chaque autorité instituée. On se couvre la tête devant son chef, c'est ça qu'il dit. Alors lui, il parle de la femme, mais vous voyez, il y a un parallèle toujours entre... et je vais expliquer pourquoi. Et on a la tête au ciel. C'est-à-dire que quand on est baptisé, on rentre dans une alliance particulière qui fait qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, et il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, nous ne sommes qu'un en Jésus-Christ. On est ressuscité avec le Christ. On appartient au peuple saint, c'est le Christ qui est notre tête. À la fois, au départ, il y a une égalité, nous sommes dans le monde, donc à tout moment, on est ou le soleil ou la lune, en fonction de nos situations, et ça peut varier plusieurs fois dans une journée. Ça, c'est parce qu'on est incarné, il y a un ordre, et on est destiné à quelque chose de plus grand qui fait qu'on est tous égaux, et on a déjà par le baptême, un avant-goût de ça, parce qu'on sait que même en respectant, je dirais, un certain ordre dans le monde, on a déjà cette égalité, cette communion qui fait qu'on peut partager spirituellement beaucoup de choses. Alors le soleil, c'est le Seigneur, au départ. C'est de lui que procède toute chose. Le Seigneur, en créant le monde, il a mis en place ses luminaires afin de jouer le même rôle que lui et de créer le monde avec lui. Il y a le soleil, effectivement, qui est le plus remarquable dans le ciel, entre les deux. C'est-à-dire qu'il va avoir, en apparence, la plus grande influence. Et puis la lune, qui a également une influence. Si on compare la lumière, la lune est moins visible que le soleil. Donc c'est toutes les personnes sous la responsabilité du soleil. Et c'est vrai que quand on regarde l'ordre, il y a toujours un responsable en toute chose. Il y a toujours un responsable de service, une seule personne sur les cartes grises, un seul mandataire quand on répond à un appel d'offres. Dans la rue, le soleil, ça va être le gendarme qui est à côté de moi, qui va être le soleil pour moi quand je passe à côté de lui. Dans une classe, ça va être le professeur qui représente le soleil. Dans une paroisse, c'est le curé qui est le soleil. Et si à l'entrée de la messe, il y a une personne qui fait l'accueil quand on rentre dans l'église, au moment où je la croise, c'est elle qui va être le soleil par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il y a des autorités, et ces autorités même peuvent être très brèves, quoi. Ça va être au moment où, pendant les 20 secondes où je passe devant l'agent de police, qu'il va être le soleil pour moi, quoi. Voilà. C'est pas forcément une autorité forte comme peut l'évoquer le mot autorité. Et quand on travaille pour un client, c'est mon client qui est le soleil. J'arrête les exemples, je pense que vous avez compris. La lune, c'est la personne, une des personnes du groupe. Tout le monde peut être la lune, mais n'est la lune que ceux qui arrivent à accepter et à faire leur ce qu'a demandé le soleil, en fait, les règles instituées par le soleil, et qui ont une certaine docilité. Et en fait, en ayant cette docilité, comme on va le voir à l'action du soleil, elle va elle-même être un canal de grâce qui va influencer le reste du groupe de manière positive. Et le reste du groupe, dans la Bible, il me semble que ça représente la Terre, c'est-à-dire la planète Terre, en fait. Le Soleil, c'est ceux qui exercent une responsabilité sur un groupe, ça va être le père de famille, par exemple. La Lune, ça va être celui qui exerce une responsabilité moins visible, mais qui est quand même là, et qui va, en fait, refléter le Soleil, y compris la nuit, en fait, à des moments où le Soleil ne peut pas éclairer. Et tous ceux qui sont dans une certaine inertie, parce que en fait ils vont pas forcément accepter ou refuser ou je sais pas quoi, ils vont représenter la Terre. Ils vont être influencés par le Soleil et la Lune. Petit 2, l'homme et le Soleil et la femme et la Lune. J'arrive au point le plus critique dans un couple. Eh bien, la parole de Dieu nous enseigne que dans un couple humain, dans le cas général, c'est l'homme qui va être le Soleil et la femme qui est la Lune. C'est en fait dans le cas général, parce qu'effectivement il y a des petites il y a des subtilités, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui exerce une tâche, par exemple quelqu'un fait la cuisine, que ce soit l'homme ou la femme, à ce moment précis où elle prépare le repas ou il prépare le repas, ça va être comme si la personne devenait le soleil dans cette tâche. Et c'est important que si son mari arrive, même si c'est lui qui d'habitude est le soleil, il respecte le fait que sa femme a pris en charge ce chantier-là. Et donc, s'il veut faire des choses, c'est plutôt à lui de dire « Chérie, est-ce que je peux t'aider ?» plutôt que de faire des choses sans lui demander, avec le risque de ne pas faire comme le soleil aurait voulu. Je dirais que dans le couple humain, la limite qu'on peut mettre au fait que c'est plutôt l'homme le soleil, c'est quand il y a des tâches particulières dans lesquelles l'autre se dit « Tiens, est-ce que je peux aider ?» Voilà. Normalement, il y a une demande à formuler pour éviter de braquer le soleil. On y reviendra plus tard. Alors, je vais essayer d'expliciter cela. Et je vais vous demander de mettre de côté au moins le temps de la conférence l'agacement éventuel que l'affirmation « l'homme et le soleil » dans un couple peut susciter. C'est vrai qu'on est dans une civilisation où on est beaucoup dans la comparaison. Et dès qu'on se sent lésé, ça déclenche une irritation. Alors que c'est vrai que revenir au fondement, expliquer la beauté d'une répartition des rôles entre hommes et femmes, ça peut être un chemin de vie, une manière de redécouvrir la puissance de feu que nous avons en nous. Je vais donner un exemple. Moïse et Aaron, qui sont les deux personnes par qui Dieu est passé pour sortir le peuple hébreu d'Égypte, ont des rôles de soleil et de lune. On voit Moïse qui discute avec le Seigneur quand, dans le buisson ardent, Dieu lui dit « Va libérer mon peuple ». Et Moïse présente devant le Seigneur son incapacité à plusieurs reprises. Et en lisant ce texte, moi je pensais à... C'est comme si c'était un troisième récit de la création, comme on trouve dans la Genèse. Parce que c'est comme si il était démontré que une personne toute seule n'y arrive pas, on a besoin d'être deux, et que les qualités soient réparties entre deux personnes qui n'ont pas les mêmes qualités. Et Dieu dit, puisque tu discutes avec moi et que tu n'arrêtes pas de me présenter des éléments négatifs qui me montrent ton découragement, je vais demander qu'Aaron vienne t'aider. Il dit, Aaron, Moïse sera ton Dieu, et Moïse, Aaron sera ta bouche. C'est-à-dire que, en fait, la lune, elle est censée faire comme si, devant le soleil, ben, le soleil était son Dieu. J'essaie de ne pas discuter, d'être respectueux, de ne pas ridiculiser le soleil. Et le soleil, devant la lune, en fait, la lune, elle a un éclat qui est plus doux et plus prompt à toucher des personnes que la force ne va pas toucher. Et il y a un certain nombre de situations dans lesquelles vouloir régler les choses par la force ou quand on est mis en difficulté, quelqu'un qui est le soleil et qui va devoir traiter un sujet qui l'énerve au plus haut point, logiquement, c'est un signe qu'il est censé s'appuyer sur la lune. Des gens de son groupe qui vont avoir une capacité plus grande, bien plus grande que lui, à déverrouiller des problèmes sociaux dans une entreprise ou auprès de certains enfants. Voilà, il y a toujours ce double mouvement. La lune, elle va laisser faire au soleil pour des décisions. On va dire, maintenant c'est comme ça et pas autrement. On verra ensuite que, évidemment, normalement le soleil il n'est pas censé prendre les décisions tout seul. Et le soleil, il est censé, quand il voit qu'il est sur un sujet qui risque de le mettre en difficulté, laisser la lune faire avec son éclat plus doux et sa manière de s'adapter aux personnes. Puisque le soleil va incarner plutôt une constance et la lune va incarner plutôt un changement. Une adaptation permanente, un changement dans la journée, enfin dans le temps, mais aussi une adaptation permanente aux gens qu'il y a autour d'elle. Donc c'est pour ça que je parle de l'homme et de la femme, mais aussi du cas lambda d'un salarié dans un groupe qui représente la lune par rapport à son chef ou à sa chef qui est le soleil. Petit 3. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. C'est une expression de saint Paul. Est-ce que vous savez que le soleil est 400 fois plus grand que la lune, mais il est aussi 400 fois plus loin de la Terre que la lune. Donc ça veut dire que depuis la Terre, nous voyons le soleil et la lune de la même taille. Alors, on est tenté de dire aujourd'hui, ils sont de la même taille, donc ils sont pareils, ils sont identiques. Mais on peut remarquer que le soleil, comme on l'a dit, c'est celui qui brille, et la lune, elle donne un éclat. C'est pas une lumière qui aveugle. C'est en fait l'éclat, c'est plutôt quelque chose qui va guider, c'est-à-dire qui va apporter un éclairage suffisant aux personnes pour les aider à se repérer, mais l'éclat va être presque imperceptible en fait. C'est-à-dire que ça va être une influence cachée. Alors, on va commencer par le soleil. Que voit-on quand on s'intéresse à la lumière éblouissante du soleil? Sans doute que le soleil tient sa lumière de Dieu. Quand il brille, c'est comme s'il cherchait à nous démontrer la grandeur de Dieu. Je brille à fond toute la journée. Et la lune aussi brille, mais la lune, elle reçoit sa lumière du soleil. Il y a une tradition juive qui nous raconte une histoire. Dieu fit les grands luminaires, les deux grands luminaires. C'est le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 16. On est le quatrième jour de la création. Genèse 1, 16. Et le plus grand luminaire et le plus petit luminaire, c'est que la lune dit au saint béni soit-il. Souverain du monde, est-il possible à deux rois de porter la même couronne? Il lui répond, fais donc toi plus petite. La lune demande à Dieu, souverain du monde, reprit la lune, je viens de te faire une remarque sensée, est-ce une raison pour que je me réduise? Dieu lui répond, fais-le. Et tu régneras non seulement sur le jour, mais aussi sur la nuit. Où est l'avantage? Demande la lune. À quoi bon peut bien servir une lampe en plein jour? Obéis, et grâce à toi, Israël pourra compter les jours et les années. Mais il est impossible de déterminer le cycle des saisons sans le concours du soleil, puisqu'il est dit que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Obéis, et le nom des justes évoquera le tien. Comme Dieu constatait que la lune n'était toujours pas satisfaite, le saint béni soit-il ordonna « Présentez un sacrifice expiatoire de ma part parce que j'ai réduit la dimension de la lune. » Alors, je vais revenir sur cette méditation de la tradition juive en dégageant sept observations. La première, c'est que d'emblée, la lune semble plus douée d'observation que le soleil. C'est-à-dire qu'elle se dit tout de suite, mais on ne peut pas avoir deux personnes qui soient strictement à la même place. Il va y avoir un problème à un moment donné. Deuxième observation, même si elle brille moins que le soleil, elle a quand même la capacité à prendre de la place, comme le soleil prend beaucoup de place. Mais le Seigneur va l'encourager à se mettre en second plan pour avoir une vraie fécondité. C'est une chose qui est valable pour une femme dans un couple, mais aussi le membre d'un groupe. C'est-à-dire que quand on s'efface, il va y avoir en fait un effet de levier progressif, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire remarquer pendant un moment, et à un moment, quand ça va être à nous d'intervenir dans une situation où les gens, en fait, on va les prendre de court. Il va y avoir une force cachée, puisqu'on va, on va cacher ce qui fait notre force. Quand, en fait, on se réduit, c'est-à-dire on laisse l'autre au premier plan. On dit, bah, après tout, c'est à lui de briller, qu'il le fasse. Moi, pour l'instant, je fais mon boulot, mais je ne... voilà. Troisièmement, le Seigneur dit à la lune qu'en se réduisant, elle régnera aussi sur la nuit. C'est-à-dire qu'elle sera un canal de grâce aussi pour le moment où son mari ou son responsable ne sera pas là. Et la nuit, c'est aussi les moments de détresse, les moments de découragement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effet de cette personne qui se met au second plan, qui acquiert une compétence pour les moments où les autres sont dans une situation difficile. Quatrièmement, la lune demande à quoi bon peut servir une lampe en plein jour. À quoi sert à la lune de briller en même temps que le soleil, puisque sa lumière à elle semble dérisoire en journée? On va tenter de répondre à cette question sur l'utilité de la clarté de la lune en plein jour. Il y a des choses à dire, en fait. Et c'est pas répondu là dans ce texte-là. Cinquième observation. Le saint, béni soit-il, lui révèle qu'elle a un rôle à jouer pour que le peuple de Dieu, aujourd'hui ça va être les juifs et les chrétiens, le peuple de Dieu compte le temps. Et Dieu précise que pour se repérer dans le temps, il faut à la fois le soleil et la lune. Et on a besoin des deux, c'est-à-dire de maîtriser le rôle de soleil qu'on peut jouer quand on est responsable dans une situation donnée, et le rôle de la lune, c'est-à-dire, attention, c'est pas moi le soleil, il y a un certain nombre de codes à respecter, et quand je les respecte, je vais avoir une capacité à compter le temps. J'en reparlerai. Donc compter le temps dans le sens avoir une fécondité spirituelle très grande. Sixième observation, Dieu lui dit, alors on voit que la lune elle a insisté, c'est-à-dire qu'elle a ses interrogations en fait, le fait qu'elle sente qu'il y a quelque chose à creuser, elle a pris le temps d'insister. Et Dieu en fait à chaque fois qu'elle reparle, Dieu va lui donner une grâce supplémentaire. Ça c'est intéressant ce côté... demandez, vous recevrez, en fait, le fait que la lune, enfin, la femme, qui est le modèle de la lune, je dirais encore plus parfait qu'un membre dans un groupe, elle va avoir tendance à extérioriser quelque chose, et en fait, il y a une utilité qui est montrée là, et que je trouve mise en scène de manière belle, c'est que, Dieu, en fait, à chaque fois que quelqu'un crie vers lui en disant, mais pourquoi ça, explique-moi, etc., Dieu, il va répondre, en fait, il va donner des grâces à chaque fois. C'est intéressant. Septième observation, le nom des justes va évoquer celui de la lune. C'est-à-dire que lorsque la lune se réduit, elle va laisser la première place au soleil. Donc en faisant ça, en fait, elle va donner de la force au soleil. C'est-à-dire que c'est comme si elle allait peser dans la balance avec le soleil pour le soutenir. Et le nom que le responsable va recevoir de Dieu, ça va être sa mission céleste, ça va être sa récompense, ça va être tout objectif que le soleil va réussir à atteindre. Eh bien, Dieu a promis à la lune que cette récompense du soleil allait être puisée dans le trésor de la lune. C'est-à-dire que il y aura des traces dans la récompense donnée au soleil par Dieu du fait qu'il y a une partie qui vient de la lune. Un peu comme si un responsable dans une entreprise dit « j'ai une super idée, voilà ». Si elle est mise en œuvre et que tout le monde l'applaudit, il y a un moment ou l'autre, ça va se savoir que cette super idée, elle est due à une personne qui lui avait soufflé. C'est forcément, en fait. Dieu va faire en sorte que soit mis en lumière le rôle qu'a joué la personne qui n'a pas cherché à être au premier plan dans un premier temps. Le soleil ne pourra pas cacher ad vitam aeternam. C'est-à-dire que c'est comme s'il allait avoir une couronne sur le front et sur la couronne, il y avait marqué lune. Je pense à la petite Thérèse, par exemple, elle est devenue docteur de l'Église. C'est pas rien, en fait, elle a été dans son Carmel à faire ses petites tâches quotidiennes, elle a écrit un petit peu, etc. Et en fait, il y a un pape qui a dit, bah, désormais, ses écrits vont être une référence quasiment équivalent avec la Bible. Enfin, le docteur de l'Église, ça veut dire quasiment ça, quoi. C'est-à-dire que on voit déjà, j'anticipe un peu sur la dernière partie, mais que la lumière à la lune devient comme celle du soleil. On voit que le moment où la lune est récompensée, cet astre va se mettre à briller d'une manière anormale et va éblouir tout le monde, en fait. Alors qu'au départ, c'était la lune. Et huitième remarque, parce qu'en fait, j'en avais une huitième. Lorsque le peuple de Dieu implore le pardon du Seigneur, Dieu a promis, comme un impôt ou une taxe, prise automatiquement sur les demandes de pardon. Quand on dit Kyrie à la messe, quand quelqu'un demande pardon, eh bien, c'est quelque chose qui est pris et donné à la lune pour aider les femmes ou des personnes qui s'humilient en étant la lune, en disant « je vais être la lune », pour les dédommager, en fait, pour peut-être soigner leur cœur qui accumule une forme d'injustice, parce que régulièrement, on s'humilie, mais il n'y a pas forcément de... Je pense au Christ, par exemple, qui, quand quelqu'un lui dit à mon frère de partager l'héritage avec moi, il lui dit « suis-je donc un juge entre vous ?» En somme, il lui dit « sois la lune », c'est-à-dire « accepte que l'autre y soit le soleil, et qu'il te lèse momentanément, et qu'en fait, en offrant le fait que tu ne vas pas réclamer autant que ce que tu aurais voulu, il y a un renversement à un moment, et il y a une guérison peut-être dans votre famille, il y a quelque chose qui se passe. » La lune est douée d'une grande observation. Quand elle se met au second plan, elle a une grande source de fécondité, notamment de régner sur la nuit, ce qui représente la nuit. La lune brille aussi en plein jour, on peut se demander pourquoi. La lune a une utilité comme le soleil pour compter le temps et donner une fécondité à tous ceux qui appliquent les règles du soleil et de la lune, comme on le verra. La lune a une capacité quand elle parle pour demander et interroger, sans être dans la critique bien sûr, à recevoir des grâces du Seigneur parce qu'elle va susciter, elle va évoquer des sujets. Il y a des moments où la lumière de la lune devient comme celle du soleil, c'est-à-dire que lorsque le soleil est récompensé, la lune aussi reçoit forcément une récompense. Et il y a une grâce particulière qui est donnée à la lune en dédommagement par le Seigneur à chaque fois que dans le peuple de Dieu, on se réunit pour demander pardon. Petit 4. J'arrive au point « La lune honore le soleil ». Alors, que ce soit de jour ou de nuit, je regarde la lune, qu'est-ce que je peux voir ? Je vois la lumière du soleil qui se répercute sur cet astre, et la lune, par sa beauté, nous renvoie vers la clarté du soleil. Saint Paul a cette phrase déconcertante. Je veux pourtant que vous sachiez ceci, le chef de tout homme c'est le Christ, le chef de la femme c'est l'homme, le chef du Christ c'est Dieu. Et on est tenté de dire, aujourd'hui, c'était comme ça à l'époque, mais ce verset n'est plus d'actualité, et pourtant il semble bien qu'il y ait un véritable mystère, comme une explication d'un canal de lumière amoureuse qui va de Dieu vers les hommes en passant par différentes personnes qui vont répercuter la lumière en fait. Et je vais appeler cette règle la première règle du soleil et de la lune. La première règle du soleil et de la lune, c'est « Femme, soyez soumise à vos maris » ou c'est « Lune, réduis-toi pour laisser le soleil briller plus que toi ». C'est-à-dire que tu peux exercer ta force toi aussi, mais je dirais que dans le domaine de la force, laisse faire le soleil, tu verras que tu auras d'autres compétences cachées qui vont faire que ça sera peut-être même toi, d'ailleurs bien souvent ça sera toi la lune, qui aura le dessus sur le soleil, au final en fait. C'est comme le lièvre et la tortue, excusez-moi de dire ça, mais on verra que la lune va un peu moins vite que le soleil dans le ciel, et ben c'est la tortue qui gagne par sa constance et par son... parce qu'elle est maligne en fait. On verra qu'il y a la seconde règle, hein, bien sûr, du soleil et de la lune. Je prends un exemple, dans le livre de Josué. Or, tandis que Josué était près de Jéricho, Il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée dégainée à la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?»« Non, dit-il, je suis le chef de l'armée du Seigneur, maintenant je viens. » Alors Josué se jeta face contre terre, il se prosterna et il dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Ainsi fit Josué. Et on voit là que l'ange du Seigneur, lorsqu'il reçoit un compliment, donc Josué voit l'ange du Seigneur qui dit, « Maintenant, je vais être le chef de ton armée. Je me montre à toi pour que tu aies confiance dans le fait de faire des, de remporter des victoires pour le Seigneur. » L'ange du Seigneur, lorsqu'il reçoit un compliment, Josué se prosterne devant lui, il va renvoyer immédiatement l'attention vers le Seigneur en disant, en retire tes sandales, il va parler de la sainteté du lieu. C'était une manière de dire Dieu est saint. Voilà, on lui fait un compliment, il renvoie la lumière directement sur le soleil en fait. On voit que cet ange joue le rôle de la lune en fait. Il va dire, on me fait un compliment, c'est le soleil que je montre, moi je ne suis qu'un serviteur inutile ou quelconque. Et l'ange, quand on va aller trop loin dans le culte d'adoration, quand il y a, par exemple Saint Jean va se prosterner devant l'ange dans l'Apocalypse, il va dire attention, c'est Dieu que tu dois adorer. La lune, ou même le soleil, que nous sommes tous, les compliments, ça doit toujours se traduire par, je trouve, une manière de ne pas faire en sorte que le compliment s'arrête à moi, mais qu'il aille sur d'autres personnes ou sur Dieu directement. Et que s'il y a trop d'admiration pour moi, de dire attention, c'est pas moi, c'est Dieu, comme fait l'ange, ne te prosterne pas devant moi. Et c'est vrai que Dieu aime qu'on ne soit pas tout le temps à dire Dieu est bon, mais que aussi on dise mon mari est extraordinaire ou mon chef est extraordinaire. Quand on nous fait un compliment, en fait, il y a une grâce particulière à honorer le soleil, la personne qui est le soleil par rapport à nous, en fait. De trouver un truc qui va renvoyer sur le soleil. Alors moi j'avais la pensée d'une femme à qui on dirait tu nous régales avec ce gâteau, et la femme elle peut dire bah, mon mari avait acheté des pommes, alors ça m'a donné l'idée de faire le gâteau. Voilà. C'est-à-dire que elle ne dit pas c'est pas moi qui fais le gâteau, elle va donner un petit truc pour renvoyer sur le mari. Et par exemple, si je prends l'exemple du salarié dans l'entreprise qui a le rôle de la lune, on lui fait un compliment parce qu'il travaille vite par exemple. Et il va dire, j'ai eu un bon pédagogue, par exemple. C'est mon chef qui m'a formé. Ou alors, j'ai été aidé par d'autres personnes. C'est une manière aussi de renvoyer sur d'autres membres du groupe pour que la lumière, en fait, se promène et qu'elle éclaire d'autres personnes. Petit 5, le soleil honore le Christ. On va voir, par exemple, quand des enfants complimentent leur père sur un bricolage qu'ils viennent réaliser dans la maison. Que peut répondre le père qui représente le soleil? Il peut dire, par exemple, Dieu m'a donné ce talent. C'est-à-dire que le soleil, c'est pareil, sa lumière, elle me vient de Dieu. Imaginons une conférencière maintenant qui termine sa conférence et reçoit des applaudissements. Elle peut se dire deux choses. Elle peut se dire, premièrement, par rapport au responsable de la salle, je suis la lune. Donc si on est dans une salle du diocèse, elle peut adresser un compliment à l'évêque ou au curé. Merci de nous avoir reçus. C'est une manière en fait de renvoyer la lumière. Et puis si elle se dit, je représente le soleil, alors elle peut, dans un milieu chrétien, dire « remercier plutôt le Seigneur » ou sinon, si elle n'est pas dans un milieu chrétien, elle peut dire « par exemple, j'ai de la chance de pouvoir faire ça ici » ou « je tiens à remercier les accessoiristes et les etc. » Vous voyez, donc en fait, parfois le rôle entre le soleil et la lune est un peu ténu, c'est pas si marqué que ça, mais c'est une habitude à prendre de trouver la lumière à renvoyer sur quelqu'un d'autre. Petit 6, le Christ est Dieu. Le Christ et Dieu d'un autre côté. Alors, par rapport à Dieu, le Père, le Christ joue le rôle de la lune. Par exemple, quand on dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Que répond Jésus? Il dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Jésus, sur un sujet qui touche de près à la divinité, qui est le domaine de la bonté, il va commencer par répondre en renvoyant vers le Père. Alors qu'il est Dieu lui-même, hein. C'est assez paradoxal cette réponse. C'est-à-dire que la question posée pour lui concerne d'abord le Père, dont je dépends, et ensuite, je vais apporter un complément de réponse, si tu veux être parfait, garde les commandements, etc., vends tout ce que tu as, il va donner ce type de réponse. De la même manière, quand il aborde la question de l'avènement du Fils de l'homme, il dit « Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges de Dieu, ni le Fils, sinon le Père et lui seul. Et alors, il y a plusieurs manières d'interpréter ce passage, mais moi, il me semble que la manière la plus juste, parce que Jésus est quand même Dieu, et ça paraît étrange qu'en Dieu, il y ait un problème de connaissance, puisque Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, etc. Alors, en fait, comme en Dieu, il y a un mouvement d'amour infini, et que Jésus est la lune par rapport au Père, et bien en fait, il va, dans ce mouvement d'amour, lui laisser le choix de décider du jour et de l'heure. C'est le choix pour le Père d'être tellement miséricordieux que ce sera le moment où il y aura le plus d'âmes qui seront sauvées, ce moment précis où le Fils de l'homme doit revenir. Un peu comme une mère qui dirait à ses enfants « Non, je ne sais pas à quel moment va déboucher cette bouteille d'Orangina, seul votre Père le sait. » En fait, c'est elle qui l'a acheté, c'est elle qui a rappelé au papa qu'il y avait un anniversaire, c'est elle qui a dit « Chérie, est-ce que ça te va si on le fête mardi soir parce que les autres soirs ils vont être fatigués ?» Enfin, elle connaît. C'est elle qui a tout porté en fait. Mais elle joue un jeu comme le joueraient les personnages de la Bible, parce que elle se dit que le papette, comme il va recevoir la grâce au moment de prendre la décision, elle se dit ben si je dis ça, déjà je vais évangéliser mes enfants, et deuxièmement l'homme il va peut-être recevoir une petite grâce pour au dernier moment dire il vaut mieux à tel moment ou tel moment, enfin il va recevoir la grâce pour une décision, voilà, sauf s'il dit à son épouse je te laisse, enfin même si c'est insignifiant de déboucher la bouteille d'Orangina, mais je donne cet exemple parce que du coup, ça, même sur des choses insignifiantes, en fait, on peut faire de l'évangélisation active. En fait, c'est une manière de répercuter une lumière très grande sur les gens qui dépendent de nous, quoi, de fonctionner comme ça. Petit 7. Les cycles du soleil et de la lune. Alors, je vais considérer plusieurs cycles. 4 cycles, en fait. Le cycle journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel. Savez-vous combien de temps mettent le soleil et la lune, en moyenne, pour qu'on les voit faire un tour dans le ciel d'une journée à l'autre? Combien de temps, la culture G? Pour le soleil, il met en moyenne 23h56 minutes. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu plus d'un tour chaque jour. Il avance un peu plus vite, quoi, dans son empressement à jouer son rôle de soleil, à éclairer, à être fort, à être victorieux dans tout ce qui... Vous savez, dans la Bible, c'est dit, le soleil, il s'élance en conquérant joyeux, quoi. Il reçoit une mission et il est le soleil, quoi. La lune émet 24 heures et 52 minutes. De là, on va déduire que chaque jour, la lune, par rapport au soleil, va tarder un petit peu plus, elle va prendre son temps, et que par rapport au soleil, elle va se décaler d'une heure. Chaque jour, si vous voyez la lune, et ben, le jour suivant, elle va se lever une heure après, ou elle va se coucher une heure après aussi, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait un petit décalage de 1 28e. Si on découpait les 365 degrés autour de nous en 28 segments, et ben chaque jour, il y a à peu près 1 28e où la Lune tarde un petit peu plus. Et ce qui fait qu'effectivement, à peu près 28 jours, et ben elle va revenir à la même position, à peu près au même angle dans le ciel. D'accord? C'est le mois. C'est parce qu'en fait, chaque jour, il y a à peu près un angle d'à peu près 1 28e, qui, c'est-à-dire à peu près 13 degrés. Et à chaque fois, chaque jour, elle change un petit peu son axe d'éclairement par rapport au soleil. C'est-à-dire que vous avez la Terre, le soleil et la Lune qui peuvent être alignés ou alors avec qui forment un angle. En résumé, chaque jour, le soleil et la Lune, si on doit résumer, font à peu près un tour autour de la Terre. Vu depuis la Terre. Donc ils ont un mouvement relativement synchronisé, ces deux astres qui sont vraiment faits l'un pour l'autre. Pour exercer une mission commune sur la Terre. Dans la Bible, on parle de la journée qui commence à 18h. Et ça, c'est une porte du temps. J'en ai parlé un tout petit peu. Je vais vous en reparler. C'est un peu avant 18h de dire « Seigneur, je t'offre ma journée ». Et quand on fait ça, on prend la porte. C'est-à-dire qu'on va occuper, on va dire ce qu'on veut qu'il se passe sur les 24 heures qui suivent. Seigneur, je t'offre ma journée. Seigneur, je proclame ta victoire sur la journée qui vient, sur tel ou tel problème. Et le soleil et la lune peuvent être nommés comme des auxiliaires qui vont exercer une influence bénéfique sur nous. Le soleil pour nous guérir et nous fortifier. Et la lune pour nous consoler et veiller sur notre sommeil. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, la vertu d'un chien de berger qui est bien dressé. On lui donne un ordre très précis et il va rassembler le troupeau, on va éviter de se fatiguer. Et aujourd'hui, on est devenu tellement cartésien qu'on n'ordonne plus le soleil et la lune. Ça paraît grossier ou rocambolesque ou alors superstitieux. Alors qu'en fait, le Soleil et la Lune sont des astres qui ont une influence très grande sur nous. Le Soleil, on a dit, donc pour guérir et fortifier. On le voit parce que quand on prend le Soleil de manière raisonnable, notre corps va avoir de la vitamine D, il va sécréter des hormones qui vont nous aider, et on va se sentir mieux, en fait. On va lutter contre la déprime, et ça va nous aider aussi, peut-être, à guérir de certaines choses, parce qu'on va recevoir de la force. La Lune, elle va nous consoler et nous aider au niveau du sommeil, pour avoir un sommeil bien réglé, et pour avoir, je dirais, une constitution harmonieuse, au niveau corps, âme, esprit. On en reparlera plus tard. La maîtrise de la journée, ça veut dire un peu avant 18h, grosso modo. Ça peut être entre 17 et 18, ou ça peut être à 18h moins 2, ou à moins 10, selon le temps qu'on veut y passer. Ou alors en union de prière, simplement en ayant une petite pensée, si on est au travail, de dire « Seigneur, je t'offre ma journée. Et toi, le soleil, je te demande de jouer ton rôle sur nous, et de nous éclairer, de nous guérir, au nom de Jésus. Et toi, la lune, de jouer ton rôle sur nous, pendant la nuit, dans le nom de Jésus, puisqu'il a repris autorité sur toute chose, de nous aider à ce que, durant la nuit, nous ayons une nuit paisible. Et pendant la journée, donc l'homme et la femme, qui sont le soleil et la lune, ou un responsable et les gens de son groupe, chaque jour, en fait, ils vont recevoir des missions, des petites missions, pour transformer le monde, c'est-à-dire les gens qu'ils ont sous leur responsabilité. Et ils vont œuvrer en fait à des moments, ils vont œuvrer à des moments différents, le soleil et la lune. Il y a des moments où ils vont être ensemble, quand ils sont synchronisés, ils sont tous les deux sur la journée. Puis des moments où ils vont être décalés, la lune ne va pas forcément se lever au même moment, et des moments où ils vont être opposés. Donc on peut imaginer un homme et une femme dans un couple, soit un responsable et un des membres de son groupe qui va être la lune, qui vont peut-être être présents à des moments différents. Et s'ils sont unis, ils vont avoir une action très forte. En fait, ça va être un levier extrêmement fort que le Seigneur a voulu et qui est bon. Voilà, il y a cette danse du soleil et de la lune. Deuxième élément dans ce petit set, le cycle hebdomadaire. Le cycle hebdomadaire, en fait, c'est une reproduction de ce qu'a fait le Seigneur en créant le monde en 7 jours. Donc, grosso modo, il y a eu 7 rotations de soleil et de lune autour de la Terre en une semaine. Et pour nous, la porte de la semaine, ça va être le samedi soir. Le samedi soir vers 18h, Seigneur, je te remercie pour... alors, en fait, déjà, il y a le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est Seigneur, je te remercie pour cette semaine écoulée. Et comme le samedi, c'est un jour particulier dans la Bible qui correspond à un jour plutôt de repos, Seigneur, viens nous faire profiter de toutes les grâces de cette semaine. Ça, c'est le vendredi soir. Et le samedi soir, ça va être, on a profité de la semaine et du jour où on était plutôt dans une position intérieure de détente. Et bien, Seigneur, je t'offre la semaine qui vient et je proclame que ça va être une semaine fructueuse. Voilà, c'est une manière simple, si on le fait en abrégé, mais après on peut prendre des psaumes, des prières, des chants, ou aller à la messe à ce moment-là. Enfin, il y a plein de... Voilà. Troisième cycle, le cycle mensuel. On a dit que la Lune se décalait un petit peu chaque jour. Et chaque mois, elle va passer par 2 quadratures. C'est-à-dire des moments où elle va former un angle perpendiculaire. Si on prend Soleil, Terre, Lune, ça fait un angle à 90 à peu près. Et elle va avoir l'aspect du premier quartier. C'est-à-dire elle va être divisée en 2 avec une partie éclairée et une partie non éclairée. Et elle va passer aussi chaque mois par 2 alignements avec la Terre ou le Soleil. Soit du même côté que le Soleil, par rapport à la Terre, c'est la nouvelle Lune, soit en opposition, c'est-à-dire que vous avez Soleil, Terre, Lune, et là ça va être la pleine Lune, il va y avoir un éclairage en plein feu. Alors, dans la tradition juive, on honore la nouvelle Lune qui est un moment de fête. C'est vrai que ça, on n'y pense pas. Le moment de la nouvelle Lune, c'est la Néoménie, c'est un moment où on se tourne vers Dieu, on fait la fête, on essaie de pas être dans un, de pas travailler ou de réduire son rythme, parce que c'est un moment où on va recevoir des grâces prophétiques pour le mois qui vient. Parce que la tradition juive dit que le temps mensuel marqué par la lune, c'est la mesure du temps prophétique. Concrètement, ça va être un peu avant la nouvelle lune, c'est-à-dire une ou deux journées avant, le soir, de prendre un moment de prière. Et aussi, une ou deux journées après, de prendre un moment de prière où on va dire « Seigneur, je te consacre le mois qui vient. » Et Seigneur, je veux que tu sois vainqueur dans le mois qui vient, que telle et telle difficulté s'en aille par ta grâce, par ta puissance. On peut nommer les grâces du Christ, c'est ce qui est le plus sûr en général, le sang du Christ, l'intercession de saints qui vont nous éclairer pendant ce mois. C'est un moment en fait où le Seigneur va nous, quand on le fait, va nous éclairer et nous montrer certaines choses à l'avance, au niveau de notre intuition ou de nos rêves, ou des gens qui vont nous dire des choses et ça va nous éclairer. Ça va nous donner des indications, en fait. Voilà. C'est connu dans le monde de la sorcellerie, en fait. Les sorciers, ils utilisent la nouvelle lune pour prier de manière négative, pour maudire, etc., pour blasphémer, pour prédire certaines choses de l'avenir. Et en fait, moi, il me semble que au départ, c'est quand même une chose bonne. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des cycles comme ça, avec le soleil et la lune, et qui a besoin à la fois des rotations du soleil, à la fois des rotations de la lune, et à la fois des cycles respectifs de l'un et de l'autre pris ensemble pour qu'on utilise ça pour recevoir des grâces. L'autre cycle dans ce petit set, c'est le cycle annuel. C'est le soleil en fait qui va, du fait de l'inclinaison, son inclinaison par rapport à l'axe de rotation de la Terre, qui va parcourir une phase ascendante de décembre à juin et descendante de juin à décembre. Alors, c'est vrai que ça dépend aussi où on est par rapport à l'équateur, mais grosso modo, c'est ça qui se passe. Et les solstices et les équinoxes sont là pour marquer ces quatre temps de l'année. Il est dit dans Luc 4, 19, « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer une année de grâce. » Voilà, c'est-à-dire que moi, je pense que Jésus, il a dû donner cette parole-là à un moment. À mon avis, ça devait être en mars, lors de l'équinoxe de printemps, parce que c'est vraiment le moment du lancement de l'année. Donc on est aux alentours du 20 au 21 mars. Et on a les quatre temps où on va, c'est pareil, quelques jours avant, quelques jours après, le soir, dire « Seigneur, je t'offre ce trimestre qui vient, alors si c'est le 21 mars, c'est aussi l'année qui vient, et je proclame que tu vas... » Alors en fait, il faut penser à la saison qui vient et quels sont les points positifs et les points négatifs. Si c'est, par exemple, en mars, ça va être le printemps. Seigneur, tu vas bénir mon jardin, tu vas nous donner l'eau, tu vas bénir mon travail, tu vas bénir nos projets, tu vas nous faire sortir de l'hiver, tu vas nous faire sortir de la torpeur dans laquelle nous étions un peu en hiver parce que l'hiver c'est plus difficile. Voilà. Et ces quatre temps sont des temps vraiment qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de grâce pendant l'année ou le trimestre qui vient. Petit 8, l'influence du soleil et de la lune. Alors, le Soleil et la Lune ont tous deux un mouvement qui, depuis la Terre, exerce une influence gravitationnelle, une influence sur les marées, puisqu'on a à peu près deux marées hautes et deux marées basses chaque jour, avec un petit décalage chaque jour. Et il y a trois sphères qui vont être influencées, c'est l'atmosphère, les océans et la Terre. On pense aux océans, mais on ne pense pas forcément à l'atmosphère et à la Terre. Ils vont être influencés un peu à la manière d'une boule anti-stress, qui va se déformer de manière ovoïde, vous savez, à cause de l'attraction principalement. Pour la Terre, par exemple, la marée terrestre, ça va être de l'ordre d'un mètre chaque jour, des deux côtés, qu'il va y avoir une déformation. C'est incroyable. Pour la marée avec donc les océans, ça va être au maximum 20 mètres pour les plus fortes marées. Vous imaginez l'ellipse qui fait 20 mètres de plus entre la marée haute et la marée basse. Pour l'atmosphère, j'ai pas les chiffres, mais vous avez compris l'idée. Alors, l'atmosphère va être attirée par la force gravitationnelle de la Lune et du Soleil, mais ce qui a le plus d'influence, ça va être la chaleur du Soleil. Parce que l'air va être sensible au rayonnement avant d'être sensible à l'attraction, à la gravité. Les océans, ils vont être influencés, d'après vous, par qui ? La Lune, le Soleil, les deux ou...
La Lune ?
Et bien en fait, ils vont être influencés par les deux, mais principalement par la Lune. Le Soleil, lui, il a une capacité d'influencer les marées aussi, qui est égale à peu près 40% de l'influence de la Lune. C'est-à-dire que si vous cumulez Lune plus Soleil, ça fait 140%. Et quand il y a un alignement du Soleil et de la Lune, surtout quand ils sont du même côté, c'est là que vous avez les marées les plus fortes. Donc l'eau, ça va être la Lune, principalement, et aussi un peu le Soleil. On va dire deux tiers la Lune, et un tiers le Soleil. Et la Terre, elle va être influencée par perdu la Lune. La Terre, ça va être la gravité qui va être déterminante. Enfin, ça va être les deux, effectivement, mais surtout la Lune. En fait, parce que la force de gravité, c'est une force qui va être inversement proportionnelle au carré de la distance. Et donc, le Soleil est 400 fois plus loin, donc il va avoir, même s'il est plus gros, plus massif, il va être beaucoup moins influent au niveau de la gravité que la Lune qui est plus proche. Voilà, c'est comme ça que ça s'explique. Alors, j'ai trouvé deux interprétations sur ces trois sphères, l'atmosphère, la mer et la Terre. Première manière de le voir, c'est le corps, l'âme et l'esprit des enfants de la famille ou des personnes du groupe. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est ce qui est le plus extérieur, représenté par l'atmosphère de la Terre. C'est le soleil qui, par sa chaleur, a le rôle le plus marqué pour que les gens du groupe ou les enfants se sentent en sécurité d'un point de vue physique, qui va mettre en place les conditions. Le responsable d'une entreprise qui va mettre en place les conditions pour que les salariés ils aient un bureau, que les portes soient fermées pour pas qu'il y ait d'intrusion, qu'il y ait l'électricité. Voilà, c'est des conditions physiques. Le soleil, c'est sa compétence, plus que la Lune, de faire en sorte que physiquement, on se sente bien, en sécurité. Deuxième sphère, c'est l'âme, c'est représenté par la mer. Et là, c'est plutôt la Lune qui a le plus d'effet. L'amour d'une maman. Alors, la gravité, à mon avis, ça représente l'amour, en fait. C'est l'amour d'une mère va avoir plus d'influence sur ses enfants, même si le père, il aime aussi, mais l'amour d'une mère, il va avoir une influence très très forte, en fait, qui va déplacer de manière invisible la mère, c'est-à-dire qui va représenter l'âme de l'enfant, ou l'âme d'un groupe. C'est-à-dire qu'un salarié lambda va avoir plus d'influence sur l'unité intérieure des autres salariés que le chef. Parce que, imaginez, le chef, il va dire quelque chose, les salariés, ils vont discuter entre eux, et ils vont dire, mais oui, mais faut pas le prendre comme ça, et puis, regarde le boulot intéressant qu'on a, vous voyez, c'est-à-dire que sur les émotions, sur les passions, sur les inquiétudes, sur tout ce qui nous traverse, c'est ce que représente l'âme, en fait. C'est plutôt la Lune qui va être la pièce maîtresse de l'âme. L'esprit, c'est-à-dire la partie la plus intérieure de nous-mêmes, qui va être représentée par la Terre, c'est encore la Lune qui a le plus d'impact sur la spiritualité des enfants, sur la spiritualité des membres du groupe, sur leur être profond, si vous voulez. Ça, c'était la première interprétation des influences du Soleil et de la Lune. J'en ai une deuxième à vous proposer. Ça va être le monde angélique, le monde démoniaque et l'humanité. Le monde angélique, représenté par l'atmosphère, c'est plutôt l'homme qui va l'influencer le plus, parce que l'homme dans un couple, bien sûr, dans le cas général, ou un responsable, le soleil, parce qu'il va créer des règles, il va faire des choses en disant voilà comment on fait, il va donner la grande direction, si j'ose dire, il va faire en sorte que la structure, l'édifice tienne, l'entreprise par exemple, ou l'équipe si c'est un manager, ou le père de famille qui va faire en sorte qu'il y ait une maison, il va penser à toutes ces choses extérieures qui mettent en sécurité. Et du coup, le monde angélique va appliquer les règles que le soleil va édicter. Les anges vont tout faire pour favoriser tous ceux qui respectent les règles, ou défavoriser tous ceux qui trichent ou qui sont paresseux. Le monde démoniaque, maintenant, qui va représenter les mers, et c'est vrai que dans la Bible, la mer, ça représente toujours les forces des ténèbres, ça va être plutôt la lune qui a le plus d'impact, qui va mettre en fuite les esprits mauvais, simplement parce que la lune, quand elle a une paix en elle, une joie en elle, une pureté en elle, ça horrifie le monde démoniaque, en fait. C'est une présence, je dirais, la Lune, quand elle se réduit, qu'elle dit je vais faire preuve d'un peu d'humilité, même si j'ai pas forcément envie, d'une certaine paix, une certaine... Rien que sa présence crée une déflagration, en fait, comparable à celle que crée la Lune sur les marées. Alors le soleil aussi, il va avoir une influence, un tiers de l'influence c'est aussi le soleil, mais voilà, la lune en a un petit peu plus. Et l'humanité, représentée par la terre, c'est plutôt la femme qui va avoir le dessus pour attirer à Dieu les âmes, en fait. Parce que la femme, elle a un cœur qui va enfanter les gens autour d'elle, qui va enfanter ses enfants, et qui va en permanence amener à Dieu des gens, en fait, parce que c'est dans sa nature de prendre les personnes autour d'elle et de les confier à Dieu, de les offrir et de les aider à porter les souffrances. Et les salariés dans une entreprise, ça va être pareil, ils vont se prendre de plein fouet certaines règles un peu trop un peu trop raide édictée par le soleil, qui dit ben, maintenant on fait comme ci, comme ça, maintenant tout le monde finit à telle heure. Le soleil parfois édicte des règles qui sont un peu trop difficiles à appliquer, qui ne prennent pas en compte la spécificité de la Lune. Et la Lune va éviter que certains ne tombent, et donc la plus grande influence sur la Terre. Donc c'est une formidable complémentarité, ce qui fait que l'homme et la femme vont avoir une influence qui est énorme sur les enfants. Un couple qui est honnête va rayonner d'honnêteté sur les enfants, et ça va faire qu'ils vont avoir presque une difficulté à ne pas être honnête, quoi. Vous voyez ? Donc à l'échelle d'une vie, bien sûr, et puis à l'échelle d'une journée, un jour où le soleil et la lune, où l'un des deux va regarder un film, bah dans la journée qui suit, les enfants vont être beaucoup plus tentés de regarder un film. C'est-à-dire que les défauts, les travers qu'on va avoir vont se répercuter d'une manière visible dans la journée qui suit, dans les heures qui suivent, sur les gens qui dépendent de nous. Si mon responsable se met en colère un jour, même si je ne le sais pas, je vais être tenté par la colère plus que d'habitude. Certains témoignent de ça, des gens qui ressentent des influences spirituelles, et après coup ils disent bah, « c'est incroyable, mon chef s'est mis en colère, mais j'ai une envie de colère toute la matinée ». Voilà quelques exemples, hein. Si mon chef, c'est quelqu'un de colérique, je vais ressentir la colère d'une manière un peu fréquente quand je suis au travail. Et puis le jour où je change de chef et j'ai quelqu'un de paresseux, je vais être tenté plus par la paresse. D'un coup, c'est comme si, tiens, je suis moins tenté par la colère au travail, mais je suis plus tenté de me tourner les pouces, de finir plus tôt, d'arriver plus tard. Vous voyez, c'est cette influence-là, certains en témoignent. Dans Job, il est écrit « Qui me fera revivre les lunes d'antan, ces jours où Dieu veillait sur moi, quand sa lampe brillait sur ma tête, et quand dans la nuit j'avançais à sa clarté ?» Job nous indique que les influences spirituelles que nous recevons de nos parents, de nos responsables, sont une manière pour Dieu de veiller sur nous. La lampe du soleil va briller sur ma tête, et la clarté de la lune va me permettre d'avancer même quand c'est la nuit pour moi, quand je suis dans une zone de difficulté. C'est-à-dire, je me laisse faire par les gens qui exercent une responsabilité sur moi, et ma tête va se mettre à briller, soit comme un soleil pour les gens qui dépendent de moi directement, soit comme la lune si je suis à égalité avec une autre personne. Et quand j'ai un doute, je vais faire comme le Christ dit, c'est-à-dire, dans le doute, tu pardonnes, tu tends l'autre joue, dans le doute, sois la lune, en fait, ne cherche pas à être le soleil. Voilà, la vie chrétienne, c'est plutôt d'être la lune. Et du coup, si j'ai des enfants qui me résistent, qui ne m'obéissent pas, le Seigneur est peut-être en train de me montrer que je suis une mauvaise lune. C'est-à-dire que quand mon responsable me demande des choses, je ne vais pas être suffisamment prompt, je ne vais pas suffisamment bénir en disant « Seigneur, merci pour cette décision qu'a pris le soleil ». Vous voyez, ou nos parents, même quand les difficultés relationnelles avec nos parents, notre chef ou nos enfants vont souvent refléter la même difficulté qu'on génère quand c'est nous qui sommes le soleil ou la lune ou vice-versa. Vous voyez, le transfert se fait comme ça, et certaines difficultés, ça demande à être analysé comme ça. C'est assez intéressant de voir ça.